France Culture.
Vous écoutez France Culture, il est 12h30, l'heure du journal. Il vous est présenté par Thomas Cluzel. Bonjour Thomas.
Bonjour à toutes et à tous. À l'instar des déclarations versatiles de Donald Trump, les marchés boursiers se montrent aussi lunatiques ou quand la fébrilité reste de mise. Ce matin, nouvelle escalade dans la guerre commerciale qui l'oppose aux États-Unis. La Chine a annoncé porter ses surtaxes douanières sur les produits américains à 125%. Nous serons à Bruxelles pour connaître la réponse à apporter à l'offensive tarifaire de Washington. Et puis avec notre invité, on s'interrogera sur les conséquences à venir ou déjà là sur l'industrie à la fois nationale et européenne. On se rendra par ailleurs à Jérusalem où retraités réservistes de l'armée israélienne appellent le gouvernement à faire une priorité de la libération des otages encore aux mains du Hamas, même si cela impose de cesser les hostilités dans la bande de Gaza. Enfin, le fabricant de semi-conducteurs, STMicroelectronics, veut économiser au moins 500 millions d'euros par an à partir de 2027, quitte à envisager le départ de 2800 postes, un vaste plan sur fond, on verra, de crise de gouvernance entre Paris et Rome. Donald Trump contrôle-t-il encore la machine infernale qu'il a lui-même lancée quand le dollar s'effrite de jour en jour au point d'atteindre un plus bas historique face à l'euro depuis plus de 3 ans? Quand les bourses souffrent ce matin encore des revirements incessants du président américain, la question se pose nécessairement, d'autant plus dans un monde où les règles ne sont désormais plus la règle, où la brutalité compte à présent davantage que la raison et où le désir du milliardaire américain d'être conforté en maître du monde passe aujourd'hui par un jeu de massacre commercial. Alors dans cette affrontement entre Donald Trump et le reste du monde. La Chine a annoncé ce matin qu'elle allait relever à 125% ses droits de douane sur les produits américains importés à compter du 12 avril. De son côté, l'Union européenne s'est dit disposée à manier à son tour la carotte et le bâton. Fabien Cazot, bonjour.
Bonjour.
En direct de Bruxelles. L'UE entend profiter de la pause de 90 jours sur les nouveaux droits de douane annoncés mercredi pour obtenir auprès de Washington un accord commercial équilibré. En revanche, si les négociations venaient à échouer, alors les 27 pourraient imposer eux aussi des surtaxes, et notamment, Fabien, contre les géants américains de la tech.
Effectivement, une option évoquée par la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, ce matin, dans une interview au Financial Times. C'est la première fois qu'elle reprend cette idée à son compte. L'idée de taxer les géants du numérique représenterait un cran de plus dans la riposte européenne, car jusqu'à présent, les représailles officiellement envisagées ne concernaient que des produits américains. Là, l'Union européenne envisage donc de s'attaquer également à des services, là où ça fait le plus mal à Donald Trump, pour deux raisons. D'abord parce que contrairement aux marchandises, les services sont un domaine dans lequel les États-Unis sont excédentaires. C'est donc là qu'ils ont le plus à perdre. Ensuite parce que symboliquement, tous les patrons de la tech se sont ralliés à Donald Trump, à commencer par Elon Musk. Cette décision aurait donc aussi une portée politique contre le président américain et ses alliés. On n'en est pas encore là. L'heure est plutôt depuis hier à la désescalade, mais aussi à des négociations qui s'annoncent intenses et sous pression maximale dans les 90 jours à venir.
Merci Fabien Cazot en direct de Bruxelles. Et j'ajoute que le commissaire européen au commerce se rendra dimanche à Washington. Alors comment résister au nouvel ordre trumpien et surtout comment trouver la parade au milieu de ce chaos sur lequel le président américain a ouvertement jeté les bases de sa politique dans cette guerre tarifaire? Des conséquences sont-elles d'ores et déjà à craindre pour l'industrie à la fois française et européenne? Pour tenter de répondre à toutes ces questions, invité de la rédaction aujourd'hui, Alexandre Sobo, président de France Industrie, directeur général du groupe Holot. Bonjour monsieur.
Bonjour.
La suspension mercredi dernier par Donald Trump et pour 90 jours donc des droits de douane réciproques a pu donner l'impression que le locataire de la Maison Blanche avait consenti à une sorte de mini-trêve provisoire. En réalité, il n'en est rien puisque les tarifs douaniers de 10% sur toutes les importations, quelle que soit leur provenance, restent en vigueur. Les États-Unis ont également maintenu leur surtaxe de 25% dans plusieurs secteurs automobiles, acier, aluminium. Comment appréhendez-vous cette situation inédite et jusqu'à quel point l'incertitude actuelle a-t-elle déjà peut-être un effet sur la santé économique des entreprises ?
Ouais, je crois qu'il est incontestable qu'on est rentré dans une période de grande incertitude, suivant les annonces de l'administration américaine. Ces incertitudes, notamment dans l'industrie, ont déjà des effets sur l'attentisme, moins d'investissement, des décisions qui sont reportées, y compris sur les flux. Quand vous mettez 3 ou 4 semaines de bateau pour aller outre-Atlantique, si vous savez pas à quel niveau vous serez taxé en arrivant, il y a des bateaux qui partent plus, il y a des containers qui restent chez le producteur. Donc tout ça a déjà des impacts. Après, au-delà des impacts conjoncturels, ce qui va vraiment compter, c'est la fin de cette période de 90 jours et comment se terminent les négociations, notamment entre l'Europe et les États-Unis. Vous l'avez très bien dit, il y a aujourd'hui des droits qui sont en vigueur, qui sont sensiblement plus importants que ce qu'il y avait avant, même s'ils ont été atténués par la suspension annoncée ces jours-ci. Et il faut continuer à travailler pour aller vers la désescalade, mais une vraie.
On évoquait tout à l'heure avec Fabien Cazot l'idée que les dirigeants français et européens cherchent aujourd'hui une forme d'équilibre entre la nécessité d'avoir une réponse à la hauteur de la déclaration de guerre économique de Donald Trump d'une part, et puis la volonté de ne pas prendre des décisions non plus trop sévères qui pourraient pénaliser à leur tour notre économie. Vous avez vous-même participé à plusieurs réunions à l'Élysée, à Bercy. De quoi dépend le bon dosage aujourd'hui des réponses à apporter?
La première chose qu'il faut dire, et d'ailleurs c'est la réaction des marchés et de l'économie américaine, c'est que ces mesures sont d'abord mauvaises pour les Américains. Et je pense que c'est la première raison du fait qu'il y a eu une atténuation dans l'offensive et qu'on est rentré dans cette période de pause de 90 jours pour négocier. Et donc il faut que l'Europe se pose les bonnes questions. Qu'est-ce qui, dans ce que je vais proposer, dans ce que je menace de faire, fait plus mal à l'Amérique qu'elle ne fait mal à l'Europe ? Vous imaginez des domaines dans lesquels on n'a aucune production européenne, mettre des droits de douane, c'est juste faire payer le consommateur ou l'entreprise européenne plus cher, puisqu'à la fin, c'est l'importateur qui paye le droit. Donc, il faut identifier à la fois les zones de fragilité, les leviers, les endroits où on a de la substitution. C'est-à-dire que, pareil pour la Chine, si demain, il y a des sujets qui se posent avec le rerouting, c'est vraiment une analyse assez fine sur les fondamentaux, par filière, par secteur, pour bien voir comment on répond.
Justement, une crainte s'est faite jour depuis cette date du 2 avril, celle que la Chine ne réoriente donc ses flux de production vers l'Europe pour parer évidemment à sa rupture commerciale avec les États-Unis, avec tous les risques de déstabilisation que ça pourrait faire courir à notre économie. Est-ce que nous sommes suffisamment préparés à cette éventualité ?
Écoutez, il y a des secteurs où c'est déjà arrivé. Je dirige, je vous l'avais dit, Holot Group qui fabrique des nacelles élévatrices et nous avons eu des droits de douane dissuasifs aux États-Unis fin 2021. Donc on a bien vu les effets, le rerouting. Et ce qui est important dans ces moments-là, c'est la vitesse de la réponse. Identifier le flux très vite et être capable, même de façon provisoire, d'apporter une réponse ferme à l'Europe pour limiter l'effet de déstabilisation du marché européen. Ensuite, on approfondit l'enquête, on peut se donner quelques mois ou un peu plus pour les droits définitifs. Mais ce qui est important, c'est de réagir très vite. Sinon, les effets de dommages sur l'économie européenne sont irréversibles au moment où les mesures de protection arrivent.
Si l'on cherche malgré tout quelques raisons de se rassurer, est-ce que cette guerre commerciale lancée par Donald Trump ne constitue pas aussi une forme d'opportunité peut-être pour l'Europe en la poussant à renforcer l'orientation de ses industries vers son propre marché intérieur ?
Écoutez, c'est ce genre d'événement qui est mauvais pour l'économie mondiale, mauvais pour l'économie américaine, mauvais pour l'économie européenne, c'est pas une opportunité. Après, si ça aide nos dirigeants européens à se rendre compte que dans un agenda de décarbonation, de réglementation, la capacité à produire est un élément à prendre en compte pour trouver un meilleur équilibre entre réglementer et produire, faisons de ces difficultés une opportunité pour trouver le bon équilibre. Mais cet objectif, il préexiste et il survivra à la guerre commerciale, quel que soit son résultat. Dans le monde tel qu'il est aujourd'hui, l'Europe doit plus se préoccuper de produire qu'elle ne l'a fait par le passé.
Selon vous, en quelques mots, est-ce que l'espoir est encore permis que Donald Trump finisse par renoncer à toutes ces mesures ?
Je ne suis évidemment pas dans la tête du président des États-Unis et de toutes les contraintes qu'il doit prendre en compte. Moi, mon espoir, c'est que cette mesure, dans la durée, elle n'est pas bonne pour les consommateurs et pour l'économie américaine. Donc, elle va être, j'espère, largement amodiée. Et ensuite, il appartiendra à l'Europe pour ce qui restera. Notamment si on n'arrive pas à rebâtir une vaste zone de libre-échange des deux côtés de l'Atlantique entre deux partenaires historiques qui partagent les mêmes enjeux, le même niveau de vie, la même façon de travailler, il faudra que l'Europe soit prête à prendre toutes les mesures qui permettent de limiter au maximum les conséquences de ce qui restera pour l'activité économique en Europe et en particulier pour l'industrie européenne, instrument de notre souveraineté.
Et une réunion entre l'UE et l'administration Trump aura lieu à Washington lundi. Merci Alexandre Sobo, président de France Industrie donc, et directeur général du groupe Holot d'avoir répondu à notre invitation. Merci également à Louise Guérin pour la préparation.
Merci à vous.
Les Canadiens devront désormais montrer patte blanche pour entrer aux États-Unis. Une nouvelle exigence qui survient après l'instauration de restrictions renforcées pour les voyageurs venus du Nord. En clair, ceux qui restent plus de 30 jours devront à présent s'enregistrer auprès des autorités américaines. Une mesure qui suscite forcément confusion et inquiétude, et tout particulièrement chez les retraités canadiens, les snowbirds, comme on les appelle, qui par dizaines de milliers ont l'habitude de déferler l'hiver vers les contrées chaudes de la côte atlantique américaine. Cette migration saisonnière dure depuis des décennies, mais aujourd'hui, elle a du plomb dans l'aile. Alors comment ces saisonniers canadiens vivent-ils ce refroidissement ? Camille Magnin est allée à leur rencontre sur l'île de Hilton Head, en Caroline du Sud. Reportage.
Promenade sur la plage pour Vanda, son mari et leur chien, des habitués de Hilton Head. Ils viennent une semaine par hiver depuis Toronto et depuis 40 ans. Mais cette année, ils ont bien failli rester au Canada.
Oui, on y a réfléchi à deux fois. On a réservé en septembre, mais si on avait pu attendre décembre, je vous assure qu'on ne serait pas venu.
Vanda garde en travers de la gorge les attaques récentes de Donald Trump qui semble sérieusement vouloir annexer le Canada aux États-Unis.
On ne deviendra jamais le 51e État. Jamais. Mais Trump tient des propos exprès pour nous provoquer. Il a une idée derrière la tête.
Quant à savoir laquelle, Yana d'Ottawa avoue qu'elle n'y comprend rien. Elle est une habituée des cours de tennis ici où elle vient depuis les années 80. 18 heures de route chaque année pour passer l'hiver au chaud. Mais Yana ne digère pas cette décision d'imposer aux Canadiens qui restent plus de 30 jours aux États-Unis de s'enregistrer auprès des services d'immigration.
Oui, je le vis comme une insulte, vraiment. Parce que jusque-là, on passait la frontière comme on voulait. Mais qu'est-ce qu'on peut y faire ? Donc oui, on va aller s'enregistrer auprès de la sécurité intérieure américaine. Qui sait combien tout ça va durer ? Who knows ?
Yana espère que tout ça va vite s'apaiser. Son frère vit ici en Caroline du Sud et elle n'a pas l'intention de renoncer à son île alors que beaucoup de ses proches boycottent déjà les États-Unis. Terry, qui vient aussi de l'Ontario, a déjà fait son choix.
Non, on va juste arrêter de venir ici. Notre prochain voyage, ce sera soit l'Irlande, soit les Açores ou l'Europe. Avec l'argent que je dépense ici en 6 semaines, je peux largement aller en Europe. Les Américains vont plus y perdre que nous.
Mais Terry, aussi bien que Yana et Vanda l'assurent, leurs voisins américains ici sur l'île restent très accueillants pour le moment. Ils s'excusent la plupart du temps pour la manière dont leur président traite le Canada.
Un reportage en Caroline du Sud signé Camille Magnard. Quelle meilleure illustration d'une parodie de justice qu'un complexe pénitentiaire transformé pour l'occasion en tribunal parce que les autorités ont estimé qu'amener le maire d'Istanbul au tribunal pouvait être source de troubles à l'ordre public. Le principal opposant au président Erdogan comparaît depuis ce matin dans l'enceinte même de la prison où il est incarcéré depuis presque 3 semaines. Et puis autre illustration de cette pression judiciaire qui pèse aujourd'hui sur l'édile déchu et par ailleurs candidat du principal parti d'opposition à la prochaine présidentielle. Imamoglu s'est présenté à la barre pour non pas un mais 3 procès différents et donc autant d'accusations passibles de longues années d'enfermement et d'interdiction de toute fonction politique. En Israël, après l'armée de l'air, la fronde gagne à présent d'autres unités. Ce sont maintenant des réservistes de la marine nationale qui ont décidé d'apposer leur signature sur une lettre ouverte adressée au ministre de la Défense ainsi qu'au chef d'état-major pour réclamer l'arrêt d'une guerre qui, selon eux, sert principalement les intérêts politiques et personnels du Premier ministre plutôt qu'un besoin légitime de sécurité. Les précisions depuis Jérusalem du correspondant de RFI pour France Culture, Michel Paul.
Ils sont plus de 150 officiers réservistes ou à la retraite de la marine nationale israélienne pour qui la reprise des combats à Gaza retarde la libération des otages, met en danger les soldats et fait des victimes innocentes. Les signataires s'inquiètent que les décisions en matière de sécurité soient dictées par des considérations illégitimes, principalement politiques. Le document est en préparation, il n'a pas encore été publié, mais ce n'est pas tout. Une autre lettre reprenant les mêmes arguments est en cours de préparation au sein du corps médical de l'armée. Elle a déjà été signée par des dizaines de médecins, tous réservistes également, et c'est le cas aussi de quelques 250 vétérans des unités de renseignement. Une tendance donc qui se propage. Hier, 1 millier de réservistes de l'armée de l'air avaient publié une lettre similaire. L'armée a ensuite annoncé leur éviction des rangs de leurs unités. Le Premier ministre Benjamin Netanyahou avait dénoncé des déclarations impardonnables émanant d'un groupe radical et marginal dans le but de renverser le gouvernement.
Et j'ajoute que la défense civile palestinienne a annoncé ce matin la mort de 10 membres d'une même famille, parmi lesquels 7 enfants, dans une attaque nocturne à Khan Younes, dans le sud de la bande de Gaza. De son côté, l'ONU dit avoir répertorié 36 frappes israéliennes qui ont tué uniquement des femmes et des enfants. On évoquait en début de ce journal l'imprévisibilité de l'offensive protectionniste américaine à laquelle on pourrait ajouter une croissance assez largement rabotée. Eh bien, c'est dans ce contexte que l'agence de notation Moody's doit dire aujourd'hui si elle maintient ou non la bonne note de la France confrontée au défi de respecter sa trajectoire budgétaire. Jusqu'à 2800 salariés du groupe de composants électroniques ST Microelectronics seront concernés par des départs volontaires à l'échelle mondiale sur une période de 3 ans. C'est ce qu'a annoncé hier le groupe au cœur d'une passe d'armes entre ses deux co-actionnaires, la France et l'Italie. Des départs qui s'ajouteront évidemment à l'attrition naturelle des effectifs. Annabelle Grelier, bonjour.
Bonjour Thomas.
Réunis en comité de groupe européen depuis hier, les syndicats n'en savent guère plus sur la stratégie de l'entreprise de semi-conducteurs au cœur de la souveraineté européenne, ni d'ailleurs sur l'impact qu'aura cette restructuration sur chaque site. En l'occurrence, il en existe 3 en France, à Tours, à Crolles en Isère et Rousset dans les Bouches-du-Rhône. Avec 5 milliards d'euros d'argent public et 200 millions de dividendes et donc près de 3000 licenciements, que se passe-t-il chez ST Microelectronics ?
Eh bien oui Thomas, abreuvé d'argent public, le géant des semi-conducteurs européens confirme son ambition d'atteindre un chiffre d'affaires d'environ 20 milliards de dollars en 2030. L'État français a annoncé un investissement de 2,9 milliards d'euros pour aider le groupe à moderniser l'usine de Crolles en Isère, quand l'Italie a mis plus de 2 milliards pour agrandir le site de Catane en Sicile et y fabriquer des puces à destination de l'industrie automobile. Une stratégie a priori conquérante mais qui ne colle pas avec les décision de la direction aujourd'hui, estime Aymeric Mougeot. Il est membre CGT du comité de groupe européen de STM Micro.
En réalité, pour l'instant, à court terme, ce qu'on voit, c'est qu'on a des vieilles technos qui sont aujourd'hui produites dans nos usines un peu plus anciennes, qui vont être transférées vers une usine toute nouvelle qui, elle, pourrait faire des technos de pointe. Donc, on va charger nos usines de pointe avec des vieilles technologies. Effectivement, pour nous, ce n'est pas bon signe. Et en fait, notre entreprise affirme encore son ambition pour cibler en 2030 des chiffres d'affaires très importants. Mais si on se sépare d'une partie de notre outil industriel et d'une part importante des salariés, nous, on n'arrive pas à voir comment on va atteindre ces ambitions de production et de souveraineté de la microélectronique en Europe.
Alors le groupe entend donc se séparer de 6% de ses effectifs, délocaliser quelques activités de main-d'œuvre à Singapour et fortement automatiser celles qu'il conservera en Europe. C'est le site de Tours en France qui devrait payer le plus lourd tribut de cette modernisation et Catane en Sicile. Ces annonces interviennent alors que les tensions autour de la gouvernance du groupe sont montées d'un cran cette semaine entre le gouvernement français et italien. Rappelons que le PDG Jean-Marc Chéry est aujourd'hui français. Les syndicats pour leur part s'inquiète, rappelle que les subventions d'argent public dont bénéficie le groupe s'accompagnaient de la promesse de créer 1 millier d'emplois, sans parler de la politique d'optimisation fiscale de l'entreprise, qui a son siège en Suisse, à leurs yeux tout de même très contestable.
Merci Annabelle Grelier. Il s'agit de la deuxième maladie neurodégénérative après Alzheimer et elle touche environ 27 000 nouvelles personnes chaque année en France. Et face à l'augmentation exponentielle du nombre de malades de Parkinson, les associations de patients s'impatientent. C'est vrai que les chiffres sont effrayants. Une personne sur 50 pourrait être frappée en France d'ici le milieu du siècle, avec toutes les séquelles importantes que cela entraîne. Fatigue chronique, dépression, rigidité du corps allant parfois jusqu'à une incapacité à marcher. La maladie de Parkinson est d'ailleurs la première cause d'invalidité dans le monde. Et pourtant, Tara Schlegel, malgré tous ces signaux d'alarme, eh bien les gouvernements ont encore du mal à prendre la mesure de ce fléau.
C'est l'analyse que fait en tout cas France Parkinson, association qui accompagne les patients depuis des années 80. Le gouvernement, ou les gouvernements devrait-on dire, n'ont jamais consacré une enveloppe dédiée à cette maladie. Certes, il y a eu, il y a 10 ans déjà, le plan maladie neurodégénérative 2014-2019, mais il intégrait plusieurs affections et il a d'ailleurs permis de renforcer et de labelliser à l'époque un réseau de centres experts. Ils sont aujourd'hui 26 à mailler le territoire, mais ce n'était qu'un début indispensable, disent les familles. Or, depuis fin 2019, 2 feuilles de route attendues n'ont jamais vu le jour. Covid oblige peut-être, instabilité politique aussi, mais cela ne saurait tout excuser. Les malades et leur soutien militent en faveur d'une stratégie quinquennale, disent-ils, car le nombre de cas ne va cesser d'augmenter dans les années à venir. Et il faut notamment accompagner dignement les personnes en perte d'autonomie. Fin 2023, justement, des experts ont été réunis pour rédiger cette fois une stratégie. Elle serait même achevée et dormirait dans un tiroir, assure l'association France Parkinson. Contacté par mail, le ministère de la Santé n'a pas souhaité s'exprimer.
On termine avec un mot du temps pour cet après-midi. Grand soleil partout. Quant aux températures, elles seront comprises entre 13 et 25 degrés. C'est la fin de ce journal. Il était réalisé par Nicolas Pommet. À 18h, vous avez rendez-vous avec Nicolas Ballu pour le prochain journal de la rédaction.